théologie fondamentale sur les sacrements, 18 octobre 1983, Rimont.
Je commence par vous lire ce texte auquel nous reviendrons constamment. C'est donc dans le Concile Vatican II, la constitution dogmatique sur l'Église. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint-Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux, par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Alors, ce qui nous intéresse ici, vous voyez bien tout de suite, c'est de voir le rapport entre l'Église et les sacrements. Et au fond, c'est ce que nous allons chercher. Nous allons essayer de comprendre le mystère de l'Église, le mystère des sacrements, voir comment l'Église étant dans le Christ en quelque sorte, en quelque sorte, c'est un Poumenim Ecclesia sit in Christo, veluti sacramentum, seus signum et instrumentum. Signe instrument, c'est du saint Thomas pur. Et l'Église est signe instrument. Mais saint Thomas ne dit jamais que l'Église est signe instrument. Saint Thomas ne parle pas de l'Église, à ce moment-là, il parle que des sacrements. C'est intéressant de voir ce rapprochement-là. Et ça nous fait réfléchir sur savoir si on peut le dire ou pas le dire. Est-ce que l'Église est sacrement? Comment comprendre que l'Église est sacrement? Qu'est-ce que ça veut dire, le sacrement? Je crois qu'au fond, c'est cette question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrement? Vous avez également alors, à propos des autres sacrements et des sacramentaux, mais là, on reprend, du point de vue de la nature des sacrements et des sacramentaux. Ça, nous y reviendrons après. Alors, je ne vais pas tout de suite avec vous faire l'analyse. On pourrait commencer comme ça, essayer de voir dans saint Thomas l'essence du sacrement. Quid sit sacramentum? Qu'est-ce que c'est que le sacrement? C'est intéressant de poser la question. Qu'est-ce que c'est que le sacrement? C'est le quid. D'habitude, saint Thomas dit le commodo. Quand il s'agit du mystère de Dieu, la théologie dit le commodo. Et quand il s'agit du sacrement, dit le quid. L'essence du sacrement, ce qu'est le sacrement. Et saint Thomas, dans le premier article, essaie de montrer que le sacrement est dans le genre du signe. Ça vous dit beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est qu'un signe. Et puis ensuite, il montre que non seulement c'est dans le genre du signe, mais qu'il y a aussi le point de vue de l'instrument. Et donc ça rejoint exactement ce que le Concile dit. Tout signe d'une réalité sacrée est-elle un sacrement? Ça c'est l'article second. Le sacrement est-il signe d'une réalité unique ou plusieurs? Ce signe est-il une chose sensible? Est-ce nécessairement une chose sensible déterminée? Pour qu'il y ait sacrement, faut-il que les paroles jouent aussi le rôle de signe? Faut-il des paroles déterminées? Peut-on ajouter ou retrancher ces paroles? Donc c'est d'abord le point de vue du signe qui fait toute étude de ce que saint Thomas nous donne à propos du sacrement. Après, c'est la nécessité du sacrement. Signe et instrument. Alors, j'ai envie, avec vous, d'essayer de comprendre le problème dans la lumière de la révélation. parce que ça me semble être de cette manière qu'on doit le comprendre, pour en avoir un regard beaucoup plus vaste. Vous allez saisir, selon l'ordre de la sagesse de Dieu, selon l'ordre de la sagesse de Dieu, la révélation, c'est la manière dont Dieu appelle les hommes à lui être unis. Donc, c'est le mystère de l'alliance. Avec Jean Vanier, pour l'Arche, on a cessé de revenir sur l'alliance. Et c'est vrai que l'alliance est le grand thème que nous retrouvons constamment, à travers toute l'Écriture. C'est l'alliance. C'est peut-être ce qui va nous aider à comprendre ce que c'est que les sacrements. Si on essaie de comprendre cela dans sa grande lumière et sa lumière la plus générale, pour ensuite préciser. Hein. Mais il faut d'abord, je crois, s'élever très haut pour saisir ce que c'est que le sacrement ou la sacramentalité. Ce par quoi un sacrement est sacrement, c'est ça que ça veut dire, puisque c'est l'abstrait du concret. Alors, ce par quoi le sacrement est sacrement. Qu'est-ce qui constitue un sacrement? Qu'est-ce qui fait qu'un sacrement est sacrement? Si je regarde la révélation, je vois que Dieu a deux moyens de s'unir aux hommes. Et qu'on retrouve à travers toute l'Écriture. On retrouve la parole, Dieu s'est servi de la parole, et Dieu s'est servi du geste. Je suis très frappé de cela depuis de nombreuses années, combien l'Écriture implique parole et geste. Et au fond, la théologie n'a retenu que les paroles. C'est très intéressant de voir ça. On en verra complètement d'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, nous retrouvons une nécessité de retrouver les gestes. La philosophie classique, depuis Platon et Aristote, en comprenant que le plus grand classique, c'est Platon, n'est-ce pas ? Platon et Aristote, ils ont parlé de la parole, ils n'ont jamais parlé du geste. Ce n'est que la philosophie moderne, avec la féminologie, qui se met à parler du geste. C'est Merleau-Ponty, par exemple, qui reprend le point de vue du geste. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite indication là-dessus pour nous de comprendre que, de fait, on a fait la philosophie de la parole en abandonnant le geste. Ne faut-il pas retrouver pour nous une théologie de la parole et une théologie du geste? Et si nous reprenons la théologie de la parole et la théologie du geste, est-ce que nous n'allons pas découvrir qu'au fond, ce que les pères de l'Église avaient toujours mis en parallèle, la parole de Dieu et l'Eucharistie, cela, nous devons découvrir pour découvrir ce que c'est que l'Église et découvrir les sacrements de l'Église. Vous voyez, vous verrez progressivement, hein, je mets simplement quelques aspects comme ça actuels qui me semblent très importants à y réfléchir, à analyser. C'est important, et c'est difficile, c'est pas commode à analyser, mais il faut analyser pour essayer de saisir. Alors, d'abord, avant d'entrer en philosophie et en théologie, je regarde l'Écriture. Je vous ai dit plus d'une fois, quand je regarde la Genèse, deux récits de la création. L'un dans la lumière de la parole, l'autre dans la lumière du geste. C'est très net. C'est pas pour rien qu'il y a deux récits de la création. On n'a pas été assez attentif à cela. Alors on a pris uniquement la parole. Et c'est vrai que même dans l'Écriture, vous retrouvez avant tout la parole, et on comprend très bien. On a fait toute une théologie de la parole à l'intérieur de l'Écriture. On n'a pas beaucoup parlé du geste. Or, si vous avez le premier récit de la création, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors c'est dit dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace, Elle a une efficacité et normalement, ce que la parole signifie, elle le réalise. Et c'est pour ça que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Et quand vous regardez la lumière, vous pouvez dire c'est une parole de Dieu réalisée. Et quand vous regardez toute la création, vous pouvez dire c'est une parole de Dieu réalisée. C'est vrai. Parce que toutes les réalités ont une intelligibilité fondamentale. Parce qu'elles sont le fruit de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu exprime la contemplation de Dieu. Et donc, au point de vue de la foi, c'est net. Il y a une intelligibilité de toutes les réalités, de toute la création, parce qu'elle est le fruit de la pensée de Dieu. Elle est le fruit de la parole de Dieu. Cette parole exprime le mystère même de la pensée de Dieu. D'une pensée qui réalise quelque chose. La pensée du Créateur. Si je regarde le second récit de la création, je vois que Dieu façonne le corps de l'homme comme un potier qui façonne un vase. Et il insuffla dans les narines un souffle de vie. Insufflé. C'est un geste. C'est pas une parole. C'est quelque chose de particulier. Il n'est pas que l'âme soit communiquée. Non, il insuffla. Il fut un vivant. Le vivant est donc la conjonction dans l'être humain du geste, de la main et du souffle. C'est très vrai que la voix et le souffle sont proches du signe, sont proches du geste. Ils peuvent aider la parole, ils sont le soubassement de la parole, mais ils font partie d'un geste. Souffler sur quelqu'un, souffler sur l'eau, c'est un geste. C'est bien évident. C'est pas une parole. Ça exprime quelque chose. Donc vous voyez que le début de la création est montré tout de suite dans cette double dimension. Pourquoi ? Parce que, sans doute, il y a deux manières d'être en contact l'un avec l'autre. Il y a deux manières pour Dieu de se communiquer à la créature. L'une par la parole, c'est toute la sagesse de Dieu, c'est toute l'intelligence de Dieu. L'autre par le geste, c'est tout l'amour de Dieu. Je crois qu'on peut facilement comprendre, et nous y reviendrons, facilement comprendre comment la parole, c'est le grand moyen de la communication au point de vue de la pensée, et comment le geste est le grand moyen de la communication au point de vue de l'amour. Et il y a les deux par où on comprend qu'on est en relation avec Dieu. Vous voyez, donc l'alliance avec Dieu implique le point de vue de la parole et implique le point de vue du geste. Parce que l'alliance avec Dieu, elle est double. C'est une alliance de sagesse et c'est une alliance d'amour. Il y a les deux manières de communiquer avec Dieu. On communique avec Dieu par sa pensée. On communique avec le souffle de Dieu. On communique donc avec le point de vue du geste de Dieu. Si je regarde maintenant l'évangile de Saint Jean comme étant le dernier moment de la révélation, je vous l'ai remarqué, je vous l'ai fait souligner, et c'est facile de relire tout l'évangile de Saint Jean, ce serait du reste très intéressant. Je ne l'ai pas fait de cette manière-là, mais c'est facile, il suffit de rassembler les petites pièces. De voir que dans l'évangile de Saint Jean, vous avez des gestes et vous avez des paroles. Vous avez un enseignement du Christ et vous avez des gestes du Christ. Prenez tout simplement le début de la vie apostolique de Jésus. Ça ne commence pas par un enseignement. Ça commence par un geste. Un geste médiatisé, c'est pas Jésus qui remplit d'eau les jarres, mais il demande aux servants de remplir d'eau les jarres. Et comme il peut y avoir une médiation par rapport à la parole, et ça se voit, puisque quand Moïse dit qu'il béguait, Dieu lui donne tout simplement à Aaron, et Aaron, c'est bien le médiateur qui prolonge l'action de Moïse. Bien comprendre, c'est important du reste de saisir ça. Il y a une médiation dans l'ordre de la parole. Aaron sera le porte-parole de Moïse. Donc la parole de Dieu passe par Moïse et passe par Aaron. Bien dans la vie apostolique de Jésus, dès le point de départ de la vie apostolique de Jésus, le geste du Christ est médiatisé par les serviteurs. C'est par le Christ qui verse l'eau, ça revient exactement au même, c'est lui qui commande. Donc, c'est un geste. Toute la vie apostolique de Jésus commence par un geste. Et toute la vie apostolique de Jésus se termine dans un geste. Le coup de lance sur le cœur du Christ. C'est un geste. Un geste dans lequel Jésus passe. C'est vraiment un geste. Quand vous regardez Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est un geste. Quand vous regardez Jésus avec Nicodème, c'est un enseignement. Alors c'est très curieux de voir que, de fait, toute la vie apostolique de Jésus telle qu'elle nous est présentée dans l'évangile de Saint Jean, donc dans l'ultime vision sur la vie apostolique de Jésus, vous voyez qu'il y a des gestes et qu'il y a une communication qui se fait par la parole. Donc il y a une double communication que nous retrouvons. Et à travers toute l'écriture, vous voyez gestes et paroles. Si quelqu'un avait le temps, il releverait tous les gestes qui sont dans l'Écriture pour faire la théologie du geste. Ça n'a pas été fait. Absolument pas. Chercher, ça n'existe pas. Mais il y a encore du pain sur la planche. Hein. Il n'y a pas à répéter uniquement, il y a essayé de découvrir quelque chose qui, je crois, est très actuel. Le renouveau de la théologie, c'est pas en prenant Hegel, parce que Hegel est déjà vieux, c'est pas en prenant ça, c'est pas en prenant Nietzsche, il est déjà vieux, il est enterré, donc il est déjà vieux. C'est de redécouvrir des choses qui sont les plus fondamentales dans l'écriture et qu'on n'a pas développées. Et là, je vous découvre une grande piste merveilleuse. Il y a quelque chose de très important à découvrir. Et c'est peut-être cela qui va nous permettre, voyez, de renouveler, mais dans le sens du renouveau, c'est peut-être cela qui va nous permettre de comprendre d'une manière plus profonde ce que représente la théologie des sacrements et la sacramentalité. Je veux dire cela. Je mets ça comme point de départ de recherche. Alors, on cherchera tous, parce que c'est intéressant d'essayer de découvrir ça. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on doit faire? Alors, allons un peu plus loin. Ça, c'est une première constatation. Si je suis attentif à l'ordre, parce qu'il faut toujours regarder l'ordre, hein, si je suis attentif à l'ordre de la parole et du geste, je vois que dans l'Ancienne Alliance, la parole est première. Toujours. Le geste est second. Et je découvre alors ça d'une façon magnifique quand il s'agit de la Torah. La parole de Dieu première. Je sais très bien que pour la Torah, il y a eu le geste aussi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ça a été écrit sur des tables, sur de la pierre. Et c'est le doigt de Dieu. Et donc, il y a le point de vue du geste qui nous est donné pour la loi. Mais la loi prend une importance magistrale. Je crois trop grande. Elle est amplifiée. Ce n'est pas tout à fait l'intention de Dieu. Je crois qu'on peut dire ça. Parce qu'il faut essayer d'entrer dans les intentions de Dieu. Parce que l'écriture, c'est entrer dans les intentions de Dieu. Je crois que la Torah a pris une dimension extraordinaire. Je regarde la manière dont ça a été vécu. Et qu'on a peut-être oublié le geste. Et que le geste, alors, nous donnait quelque chose de plus important, ou de plus caché. Dans l'Ancienne Alliance, vous trouvez bien des sacrements. Il y a des sacrements. La circoncision. Des sacrements. Mais au fond, c'est... Alors, ça a gardé son importance, mais ce n'est pas ça qui a donné la lumière. C'est avant tout la Torah, c'est avant tout la parole. Si je regarde la Nouvelle Alliance, Je peux dire que d'une certaine manière, je retrouve un ordre inverse. Et c'est cette chose que je voudrais qu'on essaie de comprendre. Je crois que c'est juste. Je dis je crois parce que c'est de l'ordre de la recherche que nous faisons. Étant donné qu'il y a tellement peu de choses qui ont été dites là-dessus, on est obligé de piocher. Alors il faut y aller lentement. Je crois qu'on pourrait dire, voyez, que l'ancienne alliance est commandée avant tout par la parole. Tandis que ce qui caractérise la nouvelle alliance dans le Christ, c'est la parole qui conduit au geste. Une des choses qui me semble très importante, c'est regarder l'alpha et l'oméga. L'alpha dans, à propos de la création, et le problème de la recréation. La création, la parole et le geste. La recréation, oui, la parole et le geste. Mais le geste finalise, très nettement. Et tout se termine dans le geste. Et toute la révélation s'achève dans le geste. De sorte que je crois qu'on pourrait dire que dans la nouvelle alliance, la parole est dépassée par le geste. Et le geste va plus loin que la parole. La nouvelle alliance, ce n'est plus la Torah. La nouvelle alliance, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le geste. C'est le geste, c'est le silence. À l'intérieur d'un don. Et d'un don qui se fait symboliquement à travers le pain et le vin. C'est donc vraiment ce qui donne la signification dernière. Ce n'est plus la parole qui est ultime et dernière. Alors il y a un phénomène très curieux, vous voyez, et ça je crois, on retrouverait le même phénomène dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que c'est intéressant. Saint Paul nous dit qu'il faut toujours les comparer pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on saisisse mieux. Je vous disais tout à l'heure, il me semble que le peuple d'Israël, recevant la Torah, a donné à la Torah comme une espèce de dimension unique. C'est la Torah. Il y a quelque chose de semblable qui s'est passé du côté de la théologie. Dans la nouvelle alliance, c'est qu'on n'a plus regardé que la parole. Et au fond, on a très peu fait la théologie des sacrements. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Quand vous regardez la théologie des sacrements dans saint Thomas, eh bien évidemment, c'est court, hein. Ça ne parle pas beaucoup. Alors n'y a-t-il pas un phénomène très analogue, vous voyez, et qui serait très intéressant, parce que ça montrerait comment l'homme a tellement de peine de convertir son cœur. C'est plus facile de mettre son intelligence au service de la foi que de mettre son cœur au service de l'amour. Alors là, il y a quelque chose qui me semble très important. Vous voyez, il dirait le point de vue du symbolisme du cœur, du reste, hein, parce que là, c'est vraiment un symbolisme, les gestes. Se termine par le point de vue du cœur, le cœur blessé de l'agneau. C'est le symbolisme par excellence. On essaiera de comprendre du reste. Mais si ceci est vrai, c'est très important. Parce que c'est à cause que la Torah a pris une dimension qui n'était pas entièrement celle de l'intention de Dieu. On a rejeté le Christ. C'était cela qui était de fait. Pour nous, il y a quelque chose d'analogue. Pour l'Église du Christ, il y a quelque chose d'analogue. C'est qu'en amplifiant trop le point de vue de la parole, le point de vue du raisonnement, on a oublié quelque chose de beaucoup plus important, qui est d'être uni dans le silence à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie n'a plus la place que l'Eucharistie devrait avoir. On a laissé un peu tomber. Et on a avant tout développé la méditation. On a développé avant tout le point de vue de la réflexion et les discussions théologiques. Et on a laissé tomber tout l'aspect de la contemplation du silence à partir de l'Eucharistie. Parce que c'est difficile de spéculer sur l'Eucharistie. Il n'y a pas grand-chose. Mais ceci, c'est simplement une constatation pour souligner quelque chose qui me semble important à bien saisir. Ça, c'est la toile de fond. Il faut toujours avoir une toile de fond sur laquelle on pourra essayer de préciser certains points. Mais il faut avoir une toile de fond. Et cette toile de fond, je crois, il faut la prendre justement comme le Concile Vatican II nous le demande, reprendre toute la théologie dans la lumière d'économie divine. Alors, si vous reprenez toute la théologie dans la lumière d'économie divine, vous voyez que Dieu a deux grands moyens de se communiquer à nous, la parole et le geste. Ça, je ne peux pas le nier. Et je m'aperçois que les hommes, les théologiens, les croyants, ont reçu avant tout le point de vue de la parole, et ont reçu beaucoup moins le point de vue du geste. Une atrophie du geste, une atrophie. Il faut que les charismatiques soient là pour remettre un geste, alors avec vigueur. Mais autrement, sans les charismatiques, il y avait une atrophie complète du geste. Et les gens restaient de silencieux, absolument une espèce de... Alors, une atrophie du geste et une amplification de la parole. Là, on ne peut pas nier de la parole, en ce sens qu'on va réfléchir et qu'on va essayer de méditer sur la parole. Au plan philosophique, essayons maintenant de réfléchir au point de vue philosophique sur ce que c'est que la parole, sur ce que c'est que le geste. Pour, à partir de là, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le sacrement. Je crois qu'il faut essayer de faire cette réflexion, qui n'est du reste pas commode, au point de vue de la parole. Nous savons bien qu'il y a deux grands philosophie de la parole, l'ancienne et la nouvelle, hein, c'est ça, c'est tout à fait normal. Hein. L'ancienne théorie de la parole, je la prends dans Platon et dans Aristote, parce que là, tous les deux se tiennent et se comprennent. Aristote va plus loin, mais c'est très important de se rappeler qu'est-ce que c'est que la parole. Et de regarder chez les modernes. Parce que si on ne voit pas cela, on ne verra pas très bien. Qu'est-ce que c'est que la parole pour Aristote? Début du Périherménéen. Il faut toujours se rappeler ce très très grand texte du Périherménéen. Le début du livre de l'interprétation. C'est en même temps l'avantage que c'est très très moderne. Hein? Le livre sur l'interprétation. Nous faisons de l'herméneutique, vous voyez, nous commençons à faire de l'herméneutique. Hein? Bien qu'ici, il y a un cours d'herméneutique quotidien. Hein? Alors il y a un cours d'herméneutique, c'est l'interprétation sur Aristote. On regarde qu'est-ce que c'est que ça. Aristote commence à montrer qu'est-ce que c'est que la parole. Et vous savez très bien, parce que vous connaissez quand même ce passage, qui fait suite au grand passage de Platon sur le mythe du Teucre. Platon, lui, a comparé la parole et l'écriture. Très, très actuel, hein. C'est vraiment les grosses discussions actuelles. Platon a essayé de comprendre la différence qui existe entre l'écriture et la parole. Et dans le mythe du Teu, puisqu'il se sert toujours du mythe quand il ne sait plus, et ça a l'avantage d'être un peu flou, et ça a l'avantage de pouvoir comme ça suggérer sans préciser. Alors Platon donne le mythe du Teu. Le mythe du Teu, c'est l'invention de l'écriture. C'est un mythe égyptien. C'est intéressant. La Grèce veut s'enraciner, elle regarde l'Égypte. Alors elle s'enracine dans l'Égypte. Alors on voit très bien le mythe du Teu. Le mythe du Teu, c'est d'essayer de comprendre la naissance de l'écriture. Alors il y a cette phrase extraordinaire de Platon. L'écriture ne répond pas. La parole répond. Autrement dit, il n'y a qu'un monologue avec l'écriture. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Moi, non, le texte ne répond pas. Nous sommes en face de ce que représente l'écriture, c'est un signe, c'est un signe. Le texte moi qui disais toujours devant, pour ce choix, devant les historiens qui étaient en disant, mais si vous ne regardez pas Saint Thomas dans son origine, vous ne comprenez rien. Alors Père Thomas disait, si vous lisez ça, si, il faut comprendre Saint Thomas avant de lire. Parce que si on ne le comprend pas avant de lire, on ne comprend pas. Il faut le comprendre avant de lire. Et c'est très vrai, il faut le comprendre avant de lire. Parce que c'est vrai. Il y a une intelligence du texte qui est antérieure au texte. C'est drôle. C'est comme ça. Parce que si vous lisez Saint Thomas en Bruce Poil, vous comprenez. Si vous lisez Saint Thomas en l'aimant, vous comprenez. C'est vrai, ça. C'est comme ça. Quand vous regardez quelqu'un, c'est la même chose pour un dialogue avec quelqu'un, vous savez. Vous allez vivre parce que quelqu'un vous dit que c'est un mais vous ne comprenez rien du tout à ce qu'il va vous dire, mais c'est un imbécile. Par définition, tout ce qu'il vous dira, ça sera complètement stupide. Si au contraire, vous allez vers quelqu'un, vous dire, ah, c'est merveilleux. Tout ce qu'il dit, n'importe quoi, c'est génial. Et parce qu'il y a justement ce point de vue, c'est cet halo affectif, vous voyez, qui nous lie. C'est très important. Il y a un halo affectif qui nous lie au texte, qui nous lie à la parole. La parole, elle est liée à la pensée. Elle est l'expression d'Aristote, le symbolon. Elle est le symbolon. Aristote a repris le point de vue de Platon. Hein. C'est un des très rares lieux où on voit une continuité entre Aristote et Platon. La seule différence, c'est qu'Aristote ne parle pas de mythe. C'est inutile. Mais alors, Aristote montre ce lien très fort qui existe entre la pensée, la parole, l'écriture. L'écriture se réfère à la parole, et la parole se réfère à la pensée, et la pensée se réfère à la réalité. Donc, il faut comprendre ces quatre moments. Le moment premier, la réalité. Second, la pensée. Troisième, la parole. Quatrième, l'écriture. Il y a un cycle. Ça prend très simple, une fois qu'on a réfléchi un tout petit peu. Quand vous réfléchissez sur ça, quand vous parlez à quelqu'un, normalement, vous voulez lui exprimer ce que vous êtes en train de penser. Normalement, c'est comme ça. Vous essayez de penser profondément, puis alors vous l'exprimez. Jusqu'au moment où la pensée est tellement grande, tellement profonde, que vous dites, c'est ineffable. Et quand vous avez dit, c'est ineffable, parce que vous avez pensé avec une telle profondeur, vous n'arrivez plus à exprimer. C'est quelque chose de tellement profond que vous n'y arrivez plus. Mais la pensée regarde la réalité. C'est sûr, toute pensée part de la réalité, l'expérience, ou la contemplation, c'est la différence. L'arrêté est en bas ou l'arrêté est en haut, tu vois. Les os d'en haut et les os d'en bas. Alors vous avez les deux et vous avez la pensée entre les deux. La pensée et la contemplation. L'expérience qui regarde la réalité que vous expérimentez et la contemplation qui regarde la réalité ultime et dernière. Que vous ne pouvez pas expérimenter, c'est pour ça que vous la contemplez. Alors vous la contemplez comme un au-delà. Et tous les deux, c'est une pensée. Et donc la pensée est relative à la réalité. Toute pensée est relative à la réalité. Et la pensée, vous l'exprimez par la parole, par le langage. Et vous exprimez de cette manière-là ce que vous avez pensé. Et vous l'écrivez. Vous l'écrivez pourquoi? Parce que la parole, hein, ça s'en va. Vous l'écrivez pour que ça dure. En écrivant, vous matérialisez. L'écriture a besoin d'une herméneutique, terme moderne. Tandis que la parole n'a pas besoin. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous parle, vous n'avez pas besoin d'un interprète. Vous n'avez qu'à lui dire, je ne comprends pas ce que vous dites, expliquez un peu. Tandis que quand vous êtes devant un écrit, hein, vous avez besoin d'un interprète. Vous avez besoin d'une herméneutique. C'est très intéressant de voir que justement, l'écriture matérialise la pensée qui est une parole vivante. Elle est reliée à sa source. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pensée est l'effet de la réalité et signifie. La pensée signifie la réalité. Tout problème de la signification. génération qui va venir ici et qui va être très important à bien saisir. Parce que c'est là où on va de fait saisir profondément ce que représente exactement le point de vue de la parole. La pensée signifie la réalité. C'est un cycle naturel. Tandis qu'au contraire, la parole signifie ce que je pense, mais d'une façon conventionnelle. Facile conventionnelle. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit facile conventionnel? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que la parole est symbolone, un symbole, mais conventionnel. Ce qui dit conventionnel dit que ça dépend d'une communauté. Il y a quelque chose d'artificiel. Il y a quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur. Et ce n'est pas directement moi qui l'impose. Donc c'est conventionnel. C'est conventionnel parce que, et c'est très important de voir ça, que la parole a quelque chose de conventionnel. On a tous appris à parler. C'est pas venu tout seul. C'est très bien, un gosse enlevé par une louve ne parlera pas. Il aboiera, il chiffra, et quelquefois ça revient même plus tard. Ça fait un peu. Ça revient. On aboie, on le faisait. Parce que c'est naturel, ça. Aboyer, c'est naturel. Un chien n'apprend pas à aboyer, et nous n'en avons pas besoin d'apprendre. J'y vais d'être enragé pour aboyer. Et on vient d'en faire d'autres choses. Mais au fond, la parole, elle est conventionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est imposé de l'extérieur par le point de vue de la communauté. Ah, c'est intéressant. Toute communauté impose du conventionnel. Et le premier conventionnel qu'une communauté impose, c'est la parole. Alors vous voulez supprimer tout conventionnel, supprimez la parole. La parole est du conventionnel. Alors allez jusqu'au bout d'une communauté, d'une facilité. C'est très très joli. Le conventionnel qui touche le point de vue de la parole. Donc acceptons qu'il y a du conventionnel et dépassons le conventionnel. Mais ne le supprimons pas. Si vous le supprimez, vous reviendrez aux aboiements. Dans tous les ordres. C'est extraordinaire. Si vous le supprimez, il faut accepter le conventionnel et le dépasser. Et le dépasser, l'assumer, quoi, tout simplement. On assume le conventionnel pour avoir une parole vivante, qui reste vivante, parce que le conventionnel n'est pas vivant par définition. Puisque le vivant, c'est ce qui provient de moi, le conventionnel, c'est ce qui vient de l'extérieur. La faire facilement. Et on voit très bien ça, il y a des gens qui ont une parole extraordinairement conventionnelle. Il n'y a plus rien de vivant, c'est tellement conventionnel que la vie est complètement morte. Non, il faut accepter qu'il y ait du conventionnel et que le point de vue vivant dépasse. Pourquoi la parole est vivante, c'est dans la mesure où vous pensez. Si vous ne pensez plus, c'est le conventionnel qui l'emporte. Faites l'analyse quand vous êtes en face de certaines personnes qui vous parlent d'une façon extraordinairement conventionnelle. Vous verrez que l'aspect de la parole vivante disparaît parce qu'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de source. Parce qu'il n'y a plus de source, alors il n'y a plus que le conventionnel. Vous avez appris votre leçon. Et c'est une chose merveilleuse, entendre une petite fille qui récite une femme de la fontaine. C'est admirable, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est ça pour ça, la fête de sa mère ou de sa grand-mère. C'est beau, elle ne comprend rien du tout. Elle a appris par cœur, elle a appris par cœur cette petite leçon. C'est purement conventionnel. Heureusement qu'après ça viendra. Mais au fond, c'est la même chose pour des religions qui ne connaissent pas la langue. Quand vous voyez dans les pays d'Afrique, des Africains musulmans, je les juge, c'est légal, ils apprennent par cœur le Coran. Ils comprennent rien. Rien du tout. Ils apprennent par cœur le Coran. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? C'est que la parole religieuse devient purement conventionnelle. Il n'y a plus rien de vivant. C'est toutes les luttes entre le latin et la langue vulgaire. J'ai le mieux prendre l'arabe et le point de vue, mon vieux Coran écrit en arabe, et puis leur langue est plus simple. Mais en fait, c'est exactement les mêmes. C'est le point de vue de la vie et le point de vue conventionnel. Vous voyez, et c'est des choses très. Et ça, c'est le problème de la parole. La parole vivante, qui est un truc au point de vue conventionnel, c'est un signe conventionnel. Donc, la parole symbolone. L'expression d'Aristote est très bonne. Il ne dit pas signe, il dit symbolone. Donc, symbole. La parole est un symbole. Un symbole conventionnel qui exprime ce que je pense, ce que je pense. Qui exprime ce que je pense. Qui renvoie donc à la réalité. C'est passé par la pensée. Et cette parole peut s'écrire. Elle peut être écrite. Et l'écriture renvoie à la réalité. Quand vous lisez un livre, la réalité est présente. On continuera ça pour essayer de comprendre dans le geste, pour essayer de comprendre comment se font les alliances avec Dieu. C'est ça que je voudrais découvrir progressivement avec vous. Faire la théologie de l'alliance. La théologie de l'Église. Et c'est la théologie des sacrements.